Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
On n'est pas forcément d'accord.
Et ce matin, c'est avec Maurice Safran. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a eu d'innombrables commentaires, de récits, d'anecdotes consacrés depuis vendredi à Simone Veil. Mais finalement, il a été assez peu question de sa passion pour la politique, une partie importante de cet incroyable destin.
En effet, Yves, ce matin,
Jérôme,
Simone Veil plongea fort jeune étudiante dès le retour des camps dans la politique pour ne plus jamais en sortir. Il se trouve que celui qui allait devenir son mari, Antoine Veil, militait parmi les démocrates chrétiens, ceux que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de centristes et qui seront à l'origine de la construction européenne. Elle se sentira à l'aise tout de suite dans cette famille politique. Le centre et l'Europe, Simone Veil aura donc été fidèle 70 ans durant à ses engagements de jeunesse. En politique et à un tel niveau, ce n'est guère courant.
La fidélité à ses convictions, à ses engagements centristes certainement, mais nous savons qu'elle avait éprouvé une très forte sympathie politique et personnelle envers Nicolas Sarkozy, qui n'est pas à proprement parler un centriste.
Elle avait en effet découvert et apprécié Nicolas Sarkozy quand ils furent ensemble ministres de cohabitation sous Édouard Balladur. Sarkozy faisait preuve envers elle d'admiration, de respect, de sympathie, et tout cela n'avait rien de fin. En retour, l'énergie de Sarkozy, sa force vitale et à l'époque sa vision politique, sa volonté réformatrice, avait bluffé Simone Veil. Elle n'était certes pas une groupie de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, groupie, ce n'était pas vraiment son genre, mais elle le protégera parfois, même quand il n'était guère défendable.
Vous voulez parler de l'annonce durant la campagne présidentielle de 2007 de la création d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale.
Je peux vous donner, Jérôme, un témoignage, une anecdote personnelle. J'avais été si troublé par l'intitulé de ce nouveau ministère, qui me semblait si opposé à quelques principes républicains essentiels et particulièrement au fondement des engagements de Simone Veil, qu'aussitôt je l'avais jointe, convaincue qu'elle mettrait tout en œuvre pour persuader le candidat de Sarkozy qu'il renonce à ce ministère si contesté et si contestable. À dire vrai, elle m'avait gentiment renvoyé au plot, me laissant entendre qu'elle partageait mon point de vue, mais qu'elle ne pouvait pas mettre Sarkozy en difficulté quelques semaines avant le premier tour de la présidentielle, alors que Ségolène Royal tenait encore le choc. C'était ça aussi Simone Veil, le responsable politique, qui faisait de la politique comme un vrai politique.
Il n'empêche que face à Nicolas Sarkozy, Simone Veil, le personnage historique, celui qui a joué un rôle essentiel dans la transmission de la mémoire de la Shoah, va finir par reprendre le dessus.
Oui, et en deux occasions au moins. D'abord, quand en 2008, Nicolas Sarkozy aura eu l'idée incongrue de confier à chaque élève de CM2 la mémoire d'un enfant français mort en déportation. Simone Veil lui signifiera en trois adjectifs qu'il ne pouvait en être question. Inimaginable, dramatique, injuste. C'en était fini de ce projet absurde. En 2010, elle désapprouva le fameux discours de Grenoble. Le président de la République semblait remettre en cause le droit du sol pour obtenir la nationalité française. Les lignes rouges de Simone Veil étaient franchies. Elle ne pouvait que le signifier et rudement, comme à son habitude. Je puis vous assurer que dans ces deux circonstances, Nicolas Sarkozy, à l'accoutumée, si sûr de lui, fila doux sur des questions d'éthique politique et de morale politique. Nul ne résistait vraiment à Simone Veil.
Maurice Safran, on n'est pas forcément d'accord.